qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
Et le Grand Toulouse, on va le saluer bien sûr en ce mercredi. Soyez toutes et tous les bienvenus. Au sommaire de ce présent ce midi, dans quelques instants, David Turchala recevra Thomas Contamine de l'association Clamor Terrae, engagé dans la protection de l'environnement et la préservation de la biodiversité. Ensemble, ils évoqueront les actions menées pour créer des espaces où les écosystèmes peuvent s'épanouir durablement, parfois par voie d'acquisition. Ce sont des véritables petites réserves naturelles qui garantissent un avenir respectueux de notre planète. Et puis, nous serons avec Pauline Cazier, comme tous les mercredis, notre correspondante dans le Gers. Elle s'entretiendra cette semaine avec Pascal Geneste. Il est le directeur des archives départementales du Gers. Sur le parvis des archives départementales, l'exposition Ouvrir la voie Gers met à l'honneur cinq femmes d'exception qui ont marqué leur époque et qui se sont illustrées dans des domaines très différentes. Et puis, dans l'émission Un jour, un livre, un auteur, nous retrouverons bien sûr le duo Philippe Leny et Diego Rabal et pour la deuxième fois, Amélie Roulier pour son ouvrage Navigation de nuit, un chemin de conservation face au deuil, un récit intime et poétique sur la traversée du deuil et la quête de lumière après la perte d'un être cher. Voilà le sommaire de ce présence midi. Tout de suite, on fait un petit point sur l'actualité. On retrouve pour cela Éric Leclerc, pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi.
Face à la crise agricole et à la colère des agriculteurs de la Haute-Garonne, la coordination rurale du département a organisé hier soir une manifestation devant la sous-préfecture de Saint-Gaudens. Les exploitants confrontés à des difficultés économiques croissantes dénoncent également la peur grandissante de la dermatose nodulaire contagieuse bovine qui approche petit à petit, accentuant le climat d'inquiétude dans le département. La mobilisation vise à alerter les pouvoirs publics et à demander des mesures de soutien immédiat. Chaque année, le mois d'octobre est marqué par une mobilisation nationale pour la lutte contre les cancers du sein. Celui-ci est toujours le premier cancer féminin. Il touche de nombreuses femmes en Occitanie. 4900 nouveaux cas sont détectés chaque année. Le dépistage préventif est pris en charge à 100% et à renouveler tous les deux ans. Vendredi 24 octobre à 18h30, le Jardin des Tilleuls à Lourdes accueillera un concert solidaire mêlant rap, engagement social et générosité. L'objectif de ce concert est de valoriser les actions de la Banque alimentaire à travers des textes engagés écrits par les jeunes eux-mêmes. L'accès au concert est gratuit et ouvert à tous, sous réserve d'apporter un produit d'hygiène ou alimentaire non périssable qui sera reversé à la Banque alimentaire.
Merci beaucoup Éric Leclerc. On vous retrouve bien sûr tout à l'heure à partir de 12h30 pour l'actu de la mi-journée.
Elbank 92.5.
On a la joie d'accueillir Thomas Contamine. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Vraiment, c'est une joie de vous recevoir. Vous êtes le directeur de Clamor Terrae, une fondation qui agit pour préserver les espaces naturels et la biodiversité, notamment dans les Pyrénées, la grande chaîne des Pyrénées. Alors leur particularité, la particularité en tout cas de votre fondation, eh bien, c'est de combiner, je crois ne pas me tromper, la science, le droit et l'action citoyenne, voilà, pour défendre concrètement la nature. Alors avec vous, on va voir comment cette démarche fonctionne, quels sont les projets en cours. On croit comprendre que vous en avez pas mal, puisque cette fondation, elle est récente, elle a un an, et vous allez nous parler de la genèse de cette fondation. Et puis peut-être aussi s'il y a des étapes à franchir, des difficultés à surpasser, des ambitions aussi écologiques que vous avez, et voilà comment elles sont confrontées avec la réalité, les réalités en tout cas locales que nous impose Dame Nature. Thomas Contamine, nous dire en fait quelle a été la genèse de Clamor Terrae, cette fondation, comment est-elle née?
Alors, cette fondation, elle est née de la volonté et de l'ambition de son fondateur, qui est Monsieur Denis Clément, qui a tout au long de sa vie à la fois accumulé des connaissances naturalistes assez poussées, même si il a toujours été naturaliste amateur, et accumulé aussi un certain nombre de constats sur le niveau de dégradation toujours plus avancé de nos écosystèmes, de la nature en général, que ce soit ici dans les Pyrénées, en France ou partout dans le monde. Et donc il a décidé, à un carrefour de sa vie, à quelques années de sa retraite potentielle, de consacrer l'intégralité de ses compétences, de son temps et de ses ressources à la défense de la nature au sens large, et de créer cette fondation Clamor Terrae. Donc elle est née de sa volonté personnelle il y a un an de ça, et ensuite il a structuré une démarche, une activité, recruté une équipe de salariés, dont je suis, et là on est en phase de déploiement de ce projet qui à l'origine est son idée.
La fondation est aussi une réalité économique, c'est un fonds de dotation. Quelle est la particularité de ce modèle?
Alors, un fonds de dotation, c'est une personne morale qui est sans but lucratif et qui a pour vocation de collecter des ressources financières de philanthropes ou de mécènes et ensuite de les redistribuer pour des actions d'intérêt général. Ça, c'est le cadre global. Et dans le cadre de la fondation Clamor Terrae, l'objectif, c'est d'employer nos fonds en lien avec notre objet, qui est la préservation de la biodiversité et la culture du lien qu'entretiennent les sociétés humaines avec la nature.
Et votre parcours à vous, alors, finalement, parce que vous êtes salarié et vous avez été approché, je suppose, ou... Et quel est votre parcours, je suppose, écologique?
Alors écologique, mais par des voies un petit peu détournées. Alors moi, j'ai un parcours qui est pas en droite ligne sur ces sujets-là. Moi, je suis historien et archéologue de formation, et j'ai fait des études qui avaient pour vocation d'étudier l'interaction qui existe entre des sociétés humaines et leur environnement. J'ai étudié ça pendant plusieurs années, et donc je suis une sorte de héritier des sciences humaines, et puis sensibilisé aux questions écologiques, à ce qu'on appelle l'écologie historique comparée notamment. Et ensuite, j'ai travaillé dans le monde des collectivités territoriales. Donc moi, je travaillais précédemment dans les Pyrénées-Atlantiques pour une communauté d'agglomération. J'ai eu vent de l'existence de ce projet qui m'a beaucoup plu dans ses fondements, qui était à la croisée d'un certain nombre de constats que j'avais pu faire dans mes missions précédentes et qui m'a donné envie de m'engager aux côtés de Denis pour ce projet.
Ouais, évidemment, vous connaissiez donc les Pyrénées, c'était un attachement peut-être personnel?
Tout à fait personnel. Moi, je suis originaire des Hautes-Pyrénées, c'était l'objet de mes recherches précédemment, c'était une étude comparée entre ce qui pouvait se passer dans les systèmes agro-pastoraux pyrénéens avec les situations dans le bassin méditerranéen, dans les Balkans notamment. Donc j'ai toujours eu cet attachement effectivement aux Pyrénées, et on partage avec Denis le constat que les montagnes en général sont parmi les derniers espaces refuges de vie sauvage dans le monde. C'est eux qui concentrent la plus grande biodiversité terrestre, si on met à part bien sûr les forêts tropicales. Et donc c'est à la fois des territoires qui sont particulièrement menacés par le changement climatique, qui, pour des raisons qu'on ne comprend pas tout à fait, s'accélère encore plus vite en montagne qu'en plaine. Les Pyrénées se réchauffent et les Alpes se réchauffent plus vite que le reste de la France, donc ils sont vraiment soumis à ces chocs climatiques, mais qui à la fois hébergent une biodiversité tout à fait unique. Donc c'est un peu là où se concentrent des enjeux objectifs, en plus de cet attachement un peu subjectif au pays. Il y a aussi beaucoup de choses à faire, et c'est, on en est persuadé, un endroit où on peut tout à fait faire la démonstration d'une cohabitation apaisé entre les activités humaines et puis les besoins minimaux de l'écosystème pour qu'il puisse survivre.
Anne Deloy.
Votre fondation, alors, elle a vraiment pour mission aussi la sauvegarde, la protection des Pyrénées, enfin, de toute la chaîne de montagne, et de travailler donc avec des partenaires locaux, enfin, au niveau des collectivités, c'est des villageois, c'est des groupements d'habitants, ou comment ça se passe toute cette mission de sauvegarde pour vous?
Alors, peut-être qu'on pourra revenir après sur ce qu'on entend par sauvegarde, parce que dans le milieu de la protection de la nature, on peut entendre plusieurs choses ou mettre plusieurs choses derrière ces notions de conservation de la nature ou de sauvegarde. Il peut y avoir des visions assez différentes, donc on pourra en parler si vous voulez.
Mais
sinon,
peut-être qu'on peut en parler,
tout de suite. On reviendra au partenariat après.
Donc il y a plusieurs sens à la sauvegarde.
Alors, c'est pas qu'il y a plusieurs sens, c'est qu'il y a plusieurs manières de la faire.
Oui.
Pour caricaturer, il y aurait dans la conservation de la nature deux courants principaux, des conservations de la nature stricte, c'est-à-dire qu'on part du principe que pour pouvoir garantir le fonctionnement pérenne de ces écosystèmes, il faut exclure tout usage humain de ces périmètres.
Ouais.
Tout. C'est-à-dire que s'il y a du pastoralisme, on n'en met plus, s'il y a de la chasse, on n'en met plus, s'il y a de l'agriculture, on n'en met plus. Donc c'est une vision assez radicale. Et ensuite, il y a d'autres courants qui essaient plutôt d'opérer une sorte de convergence entre les activités humaines et les besoins de l'écosystème. Nous, on est plutôt porteur de cette seconde vision, c'est-à-dire qu'on reste persuadé que ce qu'on appelle par exemple la libre évolution, appliquée à certains milieux très spécifiques, des petites parcelles de forêt avec une richesse biologique exceptionnelle, des zones humides, etc. Donc exclure tout usage humain de ces petits périmètres, ça peut avoir du sens. Mais en tant que stratégie globale, c'est pas vraiment tenable ni raisonnable d'imaginer ça. Et d'autant que ça ne résout finalement pas l'espèce de hiatus un peu anthropologique, civilisationnel qu'il y a entre l'homme et la nature, où petit à petit, c'est des trajectoires qui se sont séparées. Vouloir conserver en excluant les activités humaines, c'est finalement continuer de creuser ce fossé qu'il y a entre les hommes et la nature, alors qu'essayer plutôt de travailler dans une sorte de recherche de consensus entre ces parties-là, ça nous semble un peu plus stimulant sur le plan intellectuel, et puis de toute façon plus pragmatique et réaliste.
Quel est votre constat? Vous pensez, évidemment, enfin, quand on, y a une action militante, en tout cas chez vous, il y a toujours un caractère d'urgence dans les associations qui sont en faveur de la sauvegarde, si je dis le mot juste de l'environnement. Quelle est l'urgence pour les Pyrénées? Le constat, alors.
Alors, il y a des constats globaux qui sont les mêmes qu'un peu partout, c'est-à-dire que le changement climatique est une réalité quotidienne, c'est pas pour demain ou pour dans 10 ans, ça a déjà commencé, on le voit sur des choses très très pratiques qu'on peut à peu près tous observer, sur l'augmentation moyenne des températures, la diminution du nombre de jours de gel par an, la diminution du volume des précipitations, la diminution du nombre de jours enneigés, les stations de ski en savent quelque chose, la fonte tout à fait alarmante des derniers glaciers qui nous restent, si vous connaissez un peu le coin, le glacier d'Ossou dans le massif du Vignemale fait quand même pas le figure. Donc il y a un certain nombre d'indicateurs objectifs qui sont en fait le reflet de la dynamique mondiale qui est commune à tout le monde, qui s'applique sur les Pyrénées et qui ont des conséquences très concrètes sur le fonctionnement des écosystèmes. Et puis à côté de ça, il y a des pressions qui ne sont pas originales aux Pyrénées, mais qui sont beaucoup plus spécifiques au milieu, de pressions d'aménagement, de création de nouvelles routes, de nouvelles zones urbaines, de nouvelles infrastructures de transport, de production d'énergie, qui ont des impacts tout à fait dramatiques sur le milieu naturel. Et que nous, on n'entend pas combattre pour elles-mêmes, mais qu'on entend interroger au regard des impacts précisément qu'elles ont sur l'équilibre de ces écosystèmes. Parce que force est de constater aujourd'hui que là où collectivement, nous, on va dire défenseurs de la nature, on a tous échoué depuis 30 ans, parce qu'il faut quand même reconnaître que les choses ne vont pas beaucoup mieux depuis qu'on a commencé à s'attaquer au problème. C'est-à-dire qu'il y a eu de très très belles victoires qui ont été remportées, mais globalement, on est quand même plutôt perdant sur la chose. Hein. La dynamique d'effondrement du vivant n'a pas vraiment été inversée depuis qu'on commence à s'intéresser à la question. Le constat, c'est que on a fait vraisemblablement le mauvais diagnostic sur ce qui cause cet effondrement, et on a mis du coup en œuvre des solutions qui n'étaient pas forcément adaptées ou pas à l'échelle, et puis s'attaquer pas aux bonnes causes. Et donc, c'est ce que, en partie, on n'est évidemment pas les seuls à porter cette vision, on entend déployer concrètement sur le terrain.
Pour rejoindre peut-être la question de départ d'Anne Deloy, est-ce que vous pensez être compris, être entendu par les habitants des Pyrénées, des maires de villages, des agriculteurs, enfin, en tout cas ceux qui pratiquent la terre, des habitants des communes, est-ce que vous avez le sentiment d'être compris, d'être entendu sur ces réalités-là?
Bah, le sentiment, on verra à l'usage, parce que ça fait un an qu'on y travaille. Donc pour l'instant, les quelques retours qu'on a sont positifs, mais c'est à travailler. En tout cas, c'est notre préoccupation principale. Ouais. Et là, on est rentré dans cette discussion avec des grands concepts de conservation de la nature, oui, etc. On applique toujours ça à des cas extrêmement concrets, opérationnels.
Citez-nous un exemple concret,
par exemple, d'action que l'on mène.
D'une action que vous menez.
Donc on rentre directement dans le volet action de la Fondation.
Action, réaction, alors au quotidien, la Fondation Clamor Terrae.
Alors notre action, elle se déploie dans différents axes. Donc Clamor Terrae, pour ceux qui ne sont pas familiers de la langue latine, ça veut dire la voix de la terre, ouais. La voix avec un X. Ouais. Et donc la clameur, voilà, c'est ça, la clameur, exactement. Alors, ça peut être traduit par le cri, la voix, bon, c'est plus ou moins positif ou négatif, mmh, en fonction de la manière dont on le traduit. Et on était heureux de cette ambiguïté-là, pouvoir à chaque fois jouer sur le côté alarmant, mmh, et puis sur le côté un petit peu enthousiasmant de la clameur qui pourrait nous porter, ouais, vers l'action. Et donc, on déploie notre action dans différents axes. D'abord, on a un axe qu'on appelle écouter, bon, écouter la voix de la Terre. Donc, c'est-à-dire qu'on a, à travers notre activité, un soutien à des programmes de recherche académiques portés par des universités qui cherchent à améliorer la connaissance que l'on a des dynamiques à l'œuvre dans les Pyrénées et nous aider à la formulation de solutions concrètes. Ensuite, on a un deuxième volet d'action qui est défendre la voie de la Terre. Donc là, on met en place, nous et nos partenaires, un réseau de veille sur les atteintes à l'environnement qu'il peut y avoir sur toute la chaîne des Pyrénées. Alors évidemment qu'on passe à côté de beaucoup de choses, mais enfin, on essaie de structurer ce réseau de veille. Et le cas échéant, quand on constate qu'il peut y avoir un projet qui peut avoir des effets nocifs, on peut engager des recours juridiques pour s'opposer à l'existence de ces projets ou mener des campagnes d'influence si le recours juridique n'est pas fondé, pour essayer de faire avancer le débat, réduire les impacts de ce projet, voire l'empêcher. Ensuite, on a un volet protection de cette voie de la Terre. Donc là, ce qu'on entend par protection, c'est des actions un peu plus concrètes d'acquisition foncière notamment. C'est-à-dire qu'on est convaincu que le meilleur moyen d'appliquer des modes de protection qui vont bien sur certains espaces, c'est d'en devenir propriétaire ou alors de les protéger par voie réglementaire. Donc là, il existe tout un tas d'outils, notamment un outil qui s'appelle les obligations réelles environnementales, qui est un contrat entre un propriétaire et puis une tierce personne représentante de l'autorité environnementale. Un contrat qui est passé et qui stipule que le propriétaire s'engage à préserver l'intégrité biologique et les caractéristiques de l'écosystème qui est présent sur sa parcelle.
Vous êtes en train de dire que finalement, votre fondation peut acheter des parcelles en fait, de terrain et s'engager à ce que...
À la protéger.
À protéger, c'est-à-dire, ouais, en la laissant vivre.
Alors tout dépend. Alors c'est ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire que, alors du coup sur cette question de l'acquisition, donc nous on peut acheter des terrains en propre et en devenir les propriétaires, ou alors on peut aider nos partenaires à devenir propriétaires. Nous notre objectif c'est pas du tout d'accumuler des hectares, c'est de contribuer à leur protection. Si on a des partenaires qui partagent nos valeurs et s'engagent dans les mêmes intentions que nous à les protéger, on les aide simplement à devenir propriétaires. L'un de nos partenaires principaux sur ce sujet c'est le Conservatoire d'espaces naturels Occitanie, avec qui on a une convention de partenariat. Mmh. On est en train d'en établir une avec le Conservatoire Côté Nouvelle-Aquitaine. On travaille avec Néo, Nature en Occitanie également, le Fonds Forêt Préservée, voilà, un certain nombre de partenaires. Et une fois qu'on est propriétaire ou qu'on a la maîtrise de ces fonciers, l'objectif, c'est d'inverser le regard qu'on y porte. C'est-à-dire qu'on commence par analyser la qualité écologique du milieu. Et en fonction de la qualité écologique du milieu, on en déduit les usages qu'on peut avoir. Si c'est une forêt, on dit, ben là, c'est très précieux, cet îlot, on n'y touche pas. Par contre, ici, on peut s'autoriser à l'exploiter. Mais comment ? Comment est-ce qu'on peut développer un mode d'exploitation de cette forêt qui préserve le fonctionnement de son écosystème ? Si on prend la même chose sur une prairie, on dit, bah là, il y a un petit îlot sur lequel les bêtes ne doivent pas aller pâturer parce qu'il y a telle bestiole qui niche ou c'est important de le préserver. On le préserve. Par contre, sur le reste, évidemment qu'on laisse se déployer l'activité pastorale, mais on essaie de la penser en fonction des besoins de l'écosystème. Tout ça dans une logique de pérennité. En fait, c'est du pragmatisme pur. En fait, pour que la fête puisse durer encore un petit peu, il faut faire en sorte que de pas trop scier la branche sur laquelle on est assis. Donc c'est ça la logique qui nous pousse.
C'est passionnant ce que vous nous racontez, parce que là on découvre en fait des actions que beaucoup ignorent. J'avoue, je m'inclus dans cette peut-être majorité. Comment ça se passe en fait? Vous achetez pas des parcelles constructives, vous faites pas vos achats sur le bon coin. Enfin, c'est-à-dire que vous prenez peut-être des pans de montagne. Comment se font les choses? Comment se font ces acquisitions?
Bon, on a monté un petit réseau de veille qui nous permet de se tenir au courant de ce qui se vend. Parmi les choses qui se vendent, il y a des choses très intéressantes sur le Bon Coin, donc on est aussi branché sur le Bon Coin,
etc. Vos veilleurs, ce sont en fait des militants.
Alors, on a un certain nombre de bénévoles, et puis ensuite, ça fait partie aussi de notre activité en tant que salarié, effectivement.
Et vous avez un réseau, quand même, qui est structuré.
Exactement,
parce
c'est là où j'allais en venir.
Il vous faut des scientifiques, des juristes. Comment ça fonctionne?
Alors, pour le volet scientifique, adossé au fonctionnement de notre fondation, il y a un comité scientifique qui est composé de chercheurs. Alors, donc, en gros, nous, on les soutient dans leur programme de recherche, en échange de quoi ils nous aident à la consolidation stratégique de nos positionnements, à nous aider à arbitrer entre telle parcelle par rapport à l'intérêt écologique qu'elle représente. Ensuite, on a un réseau de partenaires historiques, parce que sur ces sujets-là, la fondation Clamor Terrae, elle n'est pas révolutionnaire en tant que telle. Ça fait 30 ans qu'il y a des gens, y compris dans les Pyrénées, qui s'occupent de ça. France Nature Environnement, Nature en Occitanie, etc., qui font très très bien les choses. Donc l'idée, c'est qu'on coordonne nos actions pour passer à l'échelle, en fait, parce que c'est ça qui nous manque aujourd'hui.
Parce que vous pensez qu'il manque encore d'acteurs pour la défense, est-ce que le choix peut pas être de venir renforcer en fait des fondations existantes ou des organismes existants? Est-ce que vous pensez qu'il faut multiplier les acteurs?
Il faut les deux, c'est-à-dire que il y a un certain nombre d'acteurs qui sont bien positionnés, qui ont un niveau d'expertise suffisant. Pour ces acteurs-là, ce qu'il faut, c'est augmenter leur pouvoir d'action, donc leurs ressources financières, très pratiquement. Ouais. C'est le cas de France Nature Environnement, par exemple. Ils ont une expertise exceptionnelle en matière de d'affaires juridiques. Ils sont parfaitement structurés pour ça. Après, ils fonctionnent à 90%, en tout cas dans le département, avec des bénévoles. Donc, ils ont besoin de soutien pour pouvoir augmenter leur pouvoir d'action. Et ensuite, et c'est le pari en partie de la Fondation, il y a quand même dans le paysage des gens qui s'occupent de la protection de la nature des angles morts dans l'action. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'actions qui se trouvent au point de convergence, mais dans un angle mort, entre les actions des collectivités ou des services déconcentrés de l'État et puis des associations. Soit parce que les collectivités, c'est pas dans leur prérogative, une collectivité n'engage ses actions que dans le cadre d'un périmètre de prérogative défini. Et puis les associations de protection de l'environnement historique, elles ont un pouvoir d'action financier ou en termes de ressources humaines qui est limité aussi. Et donc, à la convergence de tout ça, il y a des angles morts. Et c'est précisément ce que nous, on cherche à investir.
Et puis, évidemment, vous êtes un fonds de dotation. Donc, j'imagine que tous les mécènes, auditeurs de Radio Présence sont les bienvenus pour venir à la rencontre de Clamor Terrae pour se renseigner. Vous avez dit qu'il y avait un site internet. Moi, je vous donne l'adresse. C'est www.clamor-terrae.org www.clamor-terrae.org. Et puis c'est vrai que parfois on peut se sentir un peu impuissant face à la crise écologique quand on est derrière son poste radio en entendant les nouvelles ou les télés.
Justement, en intégrant une équipe, peut-être qu'on peut chacun à notre niveau apporter notre petite pierre.
Mais oui, c'est ça, c'est le rôle de la responsabilité collective. Exactement. Écoutez, rejoignez peut-être les veilleurs, c'est ça? C'est le message.
On vous invite. Venez avec nous, on n'est jamais trop nombreux.
Merci Thomas Contamine pour vraiment cette sensibilisation à la protection de nos Pyrénées que nous aimons tant et on veut les aimer encore longtemps.
Et on l'espère bien. Merci beaucoup aussi à vous, David Tourchala, pour cette interview. Dans quelques instants, nous serons avec Philippe Denis et Diego Rabal. Deuxième partie sur le deuil. Mais pour l'instant, on part dans le Gers.
Présence dans la vallée de la Rance, 93.1.
Sur le parvis des archives départementales du Gers, une exposition intitulée « Ouvrir la voie Gers » présente le portrait de 5 femmes qui ont marqué leur époque et qui se sont illustrées dans des domaines différents. L'exposition est installée sur le parvis des archives et reste accessible gratuitement tous les jours de 7h à 20h jusqu'au 8 mars 2026. Un QR code permet d'écouter le récit de ses vies. Je vous propose d'écouter l'interview de Pascal Geneste. Il est le directeur des archives départementales du Gers. Il est au micro de Pauline Cazier.
Oui, bonjour d'abord. C'est vrai que ouvrir la voie, c'est ouvrir la voie des femmes. L'idée de départ, c'était de concevoir une carte du matrimoine à l'instar de la carte du patrimoine qu'on connaît souvent, notamment à travers les journées européennes qui sont organisées chaque année au mois de septembre, c'est-à-dire laisser la place à l'histoire des femmes et aux traces qu'elles ont pu laisser dans notre imaginaire collectif, ou qu'elles, au contraire, qu'elles n'ont pas laissé, ou pas assez laissé. Voilà.
Donc là, ce soir, on a parler de 5 femmes. C'est un très gros projet. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Alors, c'est un projet à la fois scientifique et artistique, puisqu'il s'est agi de retenir 5 femmes qui, par leur parcours de vie, j'allais dire plus que par leur parcours professionnel, peuvent symboliser ce qu'a été l'histoire des femmes locales. Alors, il a fallu scientifiquement en faire la biographie, et ici aux archives, où nous conservons de nombreuses sources qui permettent de retracer la vie des individus, on y est arrivé assez facilement. Et ensuite, à partir de cette biographie scientifique réalisée, on a demandé à une compagnie théâtrale qui s'appelle La Langue Écarlate,
qui se trouve à Gimont
dans le Gers, de réaliser un scénario à partir d'un moment de la vie, un moment peut-être de la vie un peu symbolique de ces femmes. Scénario qui a été mis en son et mis en voix. Et donc on invite les visiteurs à photographier le QR code qui est associé au panneau biographique et à entendre ces podcasts, en quelque sorte. C'est des docu-fictions, on appelle, de 10 à 20 minutes en fonction de l'histoire qui est racontée, qui n'est pas forcément l'histoire telle qu'elle s'est déroulée, mais qui a été en quelque sorte inspirée par la vie de ces femmes.
Alors ces femmes, elles ont des parcours héroïques, on peut le dire. Une qui était avocate, une autre qui était résistante. Dites-nous.
Alors, là encore, on a fait des choix parce qu'on s'est aperçu qu'on pouvait quand même assez facilement identifier des dizaines de femmes qui, dans le Gers, ont pu contribuer à l'histoire locale. Donc on a fait des choix qui consistaient à essayer de diversifier les thématiques, d'une part. D'autre part, diversifier aussi les périodes historiques, le 19e et le 20e siècle. On a 5 portraits au final, effectivement, de 4 de ces femmes qui ont eu un parcours professionnel, on va dire, probant. L'une des premières mères d'un petit village du Gers, Marie Laurent. Comme vous disiez, une avocate qui a été l'une des premières avocates à plaider aux assises à Toulouse en 1904. Une résistante qui a été déportée à Vic-Fezensac, qui était originaire de Vic-Fezensac, qui est Julie Saint-Avit, et qui est malheureusement décédée en rentrant des camps de la mort, qui n'a donc jamais revu son village et sa famille. Il y a également Léa Saint-Pé, qui est une musicienne de Polastron, une accordéoniste qui animait dans les années 40, 50, 60 les bals populaires, et qui a été retenue, qui a vu sa carrière renaître au moment du bicentenaire de l'indépendance des États-Unis en 1976, puisqu'elle a été amenée, c'était la première fois qu'elle voyageait, qu'elle quittait le Gers, elle a été entraînée comme ça aux États-Unis pour montrer aux Américains ce que pouvait être le folklorisme en Gascogne dans ces années 70, et sa carrière est renaît un peu à partir de ce moment-là.
Alors on va parler concrètement de ces podcasts. L'écriture en a été faite par Hélène Maton, qui est dans la compagnie La Langue Écarlate.
Tout à fait. On a fait vraiment un partenariat là avec cette compagnie théâtrale. C'est pour nous la 3e résidence d'artistes qu'on organise. On avait organisé une première résidence avec une compagnie de Pauillac, la compagnie Aubra, autour d'un projet qui s'appelait Subterra. La deuxième, c'était l'année dernière avec une photographe. On avait travaillé avec elle autour de la thématique de l'immigration des Italiens dans le Gers. Et cette année, donc, en résidence, on a accueilli la compagnie Écarlate de Gimont, Hélène Maton, pour justement mener ce beau projet autour de l'histoire des femmes et du développement de la constitution de cette carte du matrimoine.
Donc tous ces textes ont été dits par des personnes qui ont été... Il y a eu un casting de voix, et oui. Puis à peu près une trentaine de personnes.
Oui, alors une trentaine de personnes, si effectivement on compte la participation d'une classe de 3e du collège Édouard Larté de Gimont, qui a contribué à la constitution d'un de ces cinq podcasts. Voilà. Et ensuite, effectivement, elle a fait appel à des acteurs avec lesquels elle travaille de manière régulière, ou des personnalités. C'est le cas, par exemple, pour Marguerite Dillon, qui était avocate. Elle a fait appel à une avocate actuelle du barreau d'Auch pour essayer de se mettre dans les pas ou dans les habits, dans la robe de Marguerite Dillon.
Concrètement, si les auditeurs de Radio Présence souhaitent découvrir ces podcasts, il faut aller sur le site des archives départementales.
Alors, sur le site plutôt de la Langue Écarlate.
La Langue Écarlate.
Voilà, Hélène Maton, Langue Écarlate, Gimont, et on tombe sur le site, effectivement, à partir duquel on peut écouter les podcasts directement en ligne. Sinon, on peut évidemment venir voir les panneaux sur place, ici, sur le parvis des archives. C'est accessible tous les jours de la semaine, y compris le week-end, de 7h à 20h le soir, heure d'ouverture du parc, qui est un parc public, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu mettre ces panneaux aussi à l'extérieur. C'est pour qu'ils soient accessibles tous les jours, jusqu'au 8 mars, qui est la date symbolique, vous savez, qui a été retenue pour célébrer les droits des femmes.
Voilà, à l'instant, vous avez pu entendre Pascal Geneste, directeur des archives départementales du Gers, qui était interviewé par notre correspondante dans le Gers, Pauline Cazier.
Présence à Tarbes et Lourdes, 96.6.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arabal, Philippe Subercase.
Philippe Noni, un jour, un livre, un auteur. Chaque semaine, on se retrouve bon pied, bon œil, même si le sujet qu'on a évoqué la semaine dernière et qu'on va continuer à évoquer cette semaine, c'est un sujet douloureux puisque c'est le deuil.
Voilà, mais qu'on vivra tous dans la vie. Personne ne passera au travail effectivement du deuil avec
Surtout quand on est immortel comme
moi. Surtout quand on est immortel comme Diego Arabal. Là, il a traversé beaucoup de deuil, effectivement. Bonjour Diego Arabal.
Bonjour les amis.
C'est toujours un vrai plaisir. Donc on va rappeler l'auteur avec qui on
Alors,
est cette semaine.
On rappelle donc qu'on était la semaine passée et à nouveau cette semaine avec Amélie Roulier, donc Navigation de nuit chez Pierre Tecky éditeur. C'est un livre donc qui parle du deuil avec ce bandeau, un chemin de consolation face au deuil d'un frère. Et autant la semaine dernière, on a parlé de son livre, on a commencé à parler effectivement de la structure qu'elle a montée suite au chemin de deuil qu'elle a fait, Amélie Roulier, accompagnement du deuil. Donc aujourd'hui, on reprend avec elle. Bonjour Amélie Roulier.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Vous avez une phrase dans votre livre, moi, qui m'a beaucoup touché, à Manœuvre créative, au chapitre Manœuvre créative, page 79. Mm-hmm. Vous écrivez justement par rapport à la réponse que vous faites à Philippe Subercase. Je suis en congé maladie. Je tourne en rond. J'aimerais trouver une pompe à souffrance, outil magique qui extrairait mes douleurs comme l'aspirateur la poussière. Je cherche. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on aurait envie de sortir la douleur de soi, on peut pas y arriver. J'ai trouvé cette phrase très très belle lorsque notamment aussi vous écrivez le fait de dire que ce que la bouche ne dit pas, le corps l'exprime, c'est-à-dire la somatisation, des gens qui vont se bloquer le dos. On dit bien d'ailleurs cette expression en français, j'ai mal au dos et j'en ai plein le dos, ce qui exprime pas du tout effectivement la même chose. Et c'est cette somatisation. Et ce qui est très bien dans votre livre, c'est que vous montrez comment vous partez de très loin avec cette image de la navigation de nuit, où vous dites à un moment donné dans le chapitre Mayday. Alors Mayday, je rappelle en anglais, Mayday, 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 c'est l'appel d'urgence international. Voilà, en bateau, en avion, etc. Tout pour dire qu'on en a besoin. Donc vous l'intitulez Mayday pour dire que vous êtes obligé de faire appel aux gens et que quelque part c'est très violent de faire appel aux gens et de dire écoute, je suis pas bien. Voilà, mon frère est mort. Et c'est comment vont réagir les gens. Est-ce que les gens sont capables, à un moment donné, de venir nous aider, y compris les gens par amitié, parce que ça demande une force terrible de pouvoir appeler les gens, être présent, et puis d'entendre leur douleur. Est-ce que vous pensez qu'avec l'organisme, effectivement, là, que vous avez monté, donc Amélie Roulier, accompagnement du deuil, vous pouvez faire ça aujourd'hui en ayant le recul nécessaire parce que les personnes que vous avez en face de vous, c'est pas des personnes que vous connaissez, c'est pas des personnes pour lesquelles vous avez de l'amitié, c'est pas des personnes avec lesquelles vous êtes liés, comme le disait tout à l'heure Philippe Subercase, par le biais de la religion. Est-ce que là, quelque part, ça permet d'avoir le détachement nécessaire pour avoir l'objectivité nécessaire pour accompagner la personne au deuil?
Alors, je me suis formée à tout ça, j'ai appris à écouter, c'est une chose qu'on n'apprend pas du tout dans notre société, qui est un peu problématique. En ce moment, on parle beaucoup d'empathie à cause de tous ces événements très violents entre jeunes. Et l'écoute, c'est la présence, entre guillemets, ultime. C'est vraiment une manière d'être en relation qui fait que on est pleinement avec l'autre. On n'est pas du tout dans une recherche de solution. On n'est pas en train de sauver l'autre. Et voilà, on est là. On laisse la personne s'exprimer. Alors moi, j'ai appris à accompagner, c'est sûr. Mais dans mes formations, je vais justement permettre aux participants qui sont des professionnels ou voilà plutôt des gens qui sont pas concernés en tout cas, qui peuvent être concernés à l'échelle personnelle mais qui sont pas concernés au niveau professionnel, d'expérimenter justement la puissance de l'écoute. Qu'est-ce que c'est de m'asseoir et d'être capable de vivre un silence dans une conversation. Ce qu'on n'aime pas du tout, on n'aime pas les silences dans les conversations. C'est un peu honteux, ça met mal à l'aise.
Particulièrement Philippe Nollier.
Oui, particulièrement moi. Je m'attendais à ce qu'ils le disent. Ouais.
On déteste tous le silence. On est dans une société où on ne sait pas, le vivre, le silence. Et en fait, quand on est dans une conversation avec quelqu'un qui est en souffrance, le silence, c'est aussi ce moment qui permet à la personne d'intérioriser ce qu'on est en train d'échanger. Si on va trop vite dans la question, si on enchaîne les questions, si on enchaîne les mots, on ne laisse pas cet espace pour que ce qui est dans la tête ou dans le cœur sorte en mots.
J'ai envie de dire que le silence, alors vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, moi, je sais, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. J'ai été à l'enterrement du papa d'un de mes amis. Et j'ai pas eu de mots. Quand je l'ai vu, je l'ai pris dans mes bras. Est-ce que vous pensez que le silence, c'est une étreinte invisible?
Ça peut, oui. Je pense que prendre quelqu'un dans ses bras en lui disant rien, ça marche très bien. Ça marche très bien, oui. Parce que finalement, il n'y a pas de mots.
Voilà, mais ça, vous ne pouvez pas le faire avec une personne que vous recevez. Par contre, le silence, c'est une étreinte invisible quelque part. Si on prend la personne, on la serre. Est-ce qu'on pourrait le définir comme ça, que le silence serait une étreinte invisible?
C'est une très jolie... J'y ai jamais pensé, mais vous m'offrez une très jolie métaphore. Oui, clairement. Il y a de ça, mais il y a aussi, pour moi, un profond respect du cheminement de l'autre. Je suis pas dans sa tête, je connais pas son histoire, je connais pas ses profondeurs, je connais pas son intime. C'est aussi offrir d'une certaine manière ce cheminement, ce choix de me livrer ce qu'il a envie de me dire.
Et au moment où il a envie de le dire, et peut-être.
Au moment où il a envie de le dire, voilà. Et pas d'être dans quelque chose de positif ou quelque chose d'imposant. En fait, quand on considère que la souffrance, la mort, la douleur, etc., sont des problèmes et qu'on arrive en disant là, tu devrais aller boire un pot, ça te ferait du bien, tu devrais aller nager, tu devrais aller t'acheter quelques habits nouveaux, tu devrais te maquiller, tu devrais aller faire du sport, tu devrais te reposer. Bah, en fait, on est en train d'imaginer les solutions que nous, on pourrait avoir pour nous à ce moment-là, dans cette situation-là. On se projette et puis et en fait, c'est pas du tout, en général, c'est pas du tout la bonne solution pour la personne qui est en face.
Qui pense ça. Philippe Subercase, vous avez un...
J'aimerais que, peut-être qu'on va conclure cette émission, j'aimerais bien... si c'est possible, de vous retrouver sur une autre émission, bien sûr, vous servant de votre livre, mais que vous nous donniez des conseils, parce que les gens qui nous écoutent et qui ont été victimes d'un deuil, j'aimerais bien que vous rentriez. Par exemple, moi, je franchis la porte, je porte un deuil. Comment vous allez me prendre en charge? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que j'ai l'impression des fois que parler, se livrer, échanger, c'est plus efficace qu'un antidépresseur ou un anxiolytique.
Ah, ça c'est un vrai sujet. Je pense que
ça serait bien que vous l'appreniez puisque vous avez fait une formation dessus.
Alors oui effectivement effectivement l'antidépresseur c'est un antidépresseur, ça remplace absolument pas une écoute et la puissance de l'écoute est très forte, ça c'est sûr. D'ailleurs on écrit quelquefois mais écrire c'est pas la même chose que dire, et parce que dans l'écriture, et je le dis encore plus aujourd'hui, quand on écrit un livre, on a des retours ponctuels, etc. Mais on ne connaît pas du tout le... Voilà, on ne sait pas qui a entendu, d'une certaine manière. Par contre, quand on dit à quelqu'un, il y a cette reconnaissance immédiate de ce qui est partagé. Évidemment, si l'autre ne dit pas, tu es sûr que tu souffres par ses mots et par ses gestes. Votre question, c'est qu'est-ce que je fais quand j'accueille quelqu'un qui est endeuillé.
Ça serait intéressant peut-être pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est vrai que là on parle, c'est très théorique, mais comment vous y prenez, comment on peut parler à quelqu'un qui est endeuillé. Alors vous l'avez dit, c'est plus facile. Je ne sais pas si c'est plus facile, le mot est peut-être n'est pas le bon, mais vous êtes plus en compréhension le fait que vous-même vous avez été touché par le deuil, le deuil de votre frère, et que vous pouvez peut-être comprendre, vous mettre à la place de la personne qui est en face de vous. Mais comment on s'y prend aujourd'hui dans cet accompagnement, dans ce que vous avez voulu faire, puisque vous avez quitté votre emploi que vous aimiez, ingénieur avec de bons revenus derrière pour faire ça. Qu'est-ce qui vous a voilà, quel a été votre moteur pour changer de vie, et puis pour aujourd'hui accompagner des gens et quelque part être toujours dans cet accompagnement, mais toujours dans cet univers lourd du deuil, quoi. Chaque fois que vous rencontrez une personne, elle vient pas vous raconter la dernière blague de Toto, quoi. C'est lourd, quoi.
Non. Je pense que ce qu'il me dit, c'est vraiment que je crois vraiment, je crois à la puissance de la vie. Et je pense que effectivement, quand on est présent à certains moments de l'existence, et notamment dans ces épreuves-là, on aide les gens à retrouver un chemin apaisé pour continuer leur vie et pour à nouveau se relancer dans des projets, etc. Tout en respectant la temporalité qui est très longue dans le deuil. Et on règle pas les choses et on règle d'ailleurs jamais certaines choses, mais offrir aux gens finalement
Est-ce que le deuil pour vous, ça serait, Amélie Roulier, la construction de l'absence de l'autre? J'ai l'impression au travers de ce que vous nous dites, je comprends ça, que le deuil, c'est la construction acceptée de l'absence de l'autre. Est-ce que c'est exact ou pas?
Alors, je reprendrai les mots. Je fais partie d'une association qui s'appelle Apprivoiser l'absence. Et j'aime beaucoup cette expression-là, parce qu'on est vraiment là-dedans. Apprivoiser l'absence, c'est finalement j'intègre cette absence comme étant une part de mon histoire, et en même temps j'intègre un lien à l'intérieur avec cette personne. Dominique aujourd'hui, pour moi, il est présent, mais très différemment de ce qu'il a été quand il était là physiquement. Voilà, et c'est très apaisé. J'ai des petits pincements au cœur comme tous les endeuillés de la terre à certains moments, mais voilà, c'est apaisé en moi. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui me freine dans ma vie personnelle, dans mes projets professionnels. Et du coup, je suis là aussi parce que j'ai eu ces lueurs, ces personnes qui m'ont accompagnée, que je suis allée soit chercher, parce que effectivement, je me suis fait accompagner, soit que j'ai rencontré sur la route. Mais c'est ça qui me drive dans mon projet. C'est, je sais que en agissant là, en fait, on agit sur toute la vie des gens derrière.
Mais je reviens sur ma question initiale. Je franchis votre porte, j'ai un deuil. Qu'est-ce que vous me dites au début? Qu'est-ce que vous allez me dire? Comment vous allez me prendre en charge?
La première chose, c'est que j'accueille la personne déjà en souriant, ça c'est mon première chose. Et déjà rentrer dans une explication de ma posture. les gens sont, j'accueille les gens en leur disant que voilà, ils sont là pour dire ce qu'ils ont besoin de dire. Il n'y a pas de jugement sur ce qu'ils vont pouvoir dire, que ce soit des émotions, un vécu, une expérience avec une personne de leur famille ou de leur entourage. Il n'y a pas de jugement. Et puis, après, au fur et à mesure, on va explorer la manière dont ils ont vécu le deuil, l'annonce du deuil, enfin l'annonce de la mort, le contexte, etc., qui est très différent d'une personne à l'autre. Le lien qu'ils avaient avec cette personne, c'est de la conversation, c'est du questionnement, c'est du dessin, c'est plein de choses en fonction des gens. Vraiment, tout est fait à la... C'est de la dentelle, en fait, l'accompagnement. Et ensuite, on regarde tout ce qui peut être de l'ordre du psychologique, du matériel, etc. On va rentrer dans les réalités concrètes. Et puis après, en fonction des gens, on va aller... Je vais questionner et je vais les guider pour qu'ils puissent poser certains pas, etc. Mais je vais faire une comparaison peut-être très maladroite, mais quand vous voyez un enfant qui naît et qui grandit, les premières années, il y a ceux qui marchent d'abord, ceux qui parlent après. Chaque enfant est différent, finalement. Dans un espace-temps, ils vivent des choses qui sont différentes, à des stades différents. Et en fait, un endeuillé n'est pas forcément un enfant, mais les prises de conscience, les mouvements intérieurs, les émotions, elles vont être très différentes d'une personne à l'autre. Il suffit d'une circonstance particulière pour réveiller une douleur, quelquefois. Donc voilà, la personne, elle arrive avec ce qu'elle a sur le cœur, ce qu'elle a vécu depuis la dernière fois que je l'ai vue. Et voilà, mais au tout début, effectivement, je pose ce cadre-là de... Il n'y a pas de limite. Et il y a aussi une chose très importante, c'est que moi, je suis accompagnatrice du deuil, je suis coach, mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas conseiller conjugal, je ne suis pas thérapeute de couple ou autre. Et du coup, il y a aussi ce côté-là que je pose en disant, il y a des choses de cet ordre-là qui arrivent, je vous proposerai sûrement d'aller voir quelqu'un qui a vraiment cette casquette spécifique.
Digoire Rabal, vous avez une question.
Oui, moi j'avais juste une question parce que dans ce que vous décrivez, on est dans une relation duel, c'est-à-dire que il y a vous et il y a la personne en deuil. Oui. C'est clair que c'était pas évident au départ. C'est bien qu'on ait commencé à creuser un peu comment ça se passe réellement, parce qu'on aurait pu imaginer que vous accueillez les personnes à travers un groupe de parole qui peut exprimer son désarroi, sa difficulté, etc.
Je fais les deux.
Là, vous faites les deux, d'accord.
Là, je vous ai parlé de l'accompagnement individuel.
D'accord.
Avec les groupes, le fonctionnement est à la fois identique et différent. Je pose les mêmes choses en termes de... Il n'y a pas de limite, on peut tout exprimer. Je vais travailler avec les attentes des gens qui sont là, parce qu'évidemment, chacun arrive avec une histoire différente et à un stade de deuil différent. Donc, il y a un moment d'expression où ils ont l'espace pour dire moi je viens pour cette raison là, voilà ce que je viens chercher, et après on pose le cadre de la confidentialité, de voilà, du fait que les émotions peuvent s'exprimer, que les larmes c'est pas interdit. Au contraire, que voilà, le respect pour les uns pour les autres, et puis voilà, le temps de parole qui est aussi doit s'ajuster pour que chacun ait une place et puisse s'exprimer et repartir en ayant cette sensation de s'être exprimé. Mais pour vous donner une petite idée, au dernier atelier que j'ai animé, j'avais 6 personnes en face de moi avec des contextes de deuil très différents. Des âges aussi très différents, parce que la plus jeune avait vingtaine d'années et la plus âgée, je pense, pas loin de 80 ans. Et en fait, elles avaient, que des femmes, elles avaient toutes des attentes différentes. Mais après, ça, c'est mon rôle d'animatrice, pour le coup, de maturer au fur et à mesure de la journée qu'on va répondre aux attentes des uns et des autres. Et ça, c'est, bon, c'est un apprentissage que j'ai fait et que c'est devenu naturel pour moi, mais je l'ai appris. Et là, au début de la rencontre, je leur ai projeté une image de bateau avec plein de personnages partout. Et bon, on avait une grosse partie qui était en train de se noyer dans la mer. Et à la sortie, elles étaient avec la plupart avec des petits personnages qui se tenaient bras-tu-bras-tout sur le bateau. Mmh. C'est, voilà. Ça veut dire que le cheminement, la compréhension, la réassurance jouent son rôle, en fait. On ne résout pas les problèmes en 3 heures ou en 8 heures.
Philippe Subercase.
Oui. Par exemple, lors dans les consultations, est-ce que vous allez peut-être conseiller une personne d'aller voir un thérapeute, de lire tel ouvrage, parce que vous avez décelé que dans ce deuil-là, ben, ça serait bien de lire un livre particulier. Sur une autre personne, ça sera un autre livre ou un thérapeute. Par exemple, il y a cette notion de MDR, par exemple, que font certains psychologues, qui oui. permettent, lorsque on a un traumatisme qui ne veut pas rentrer et qui est toujours en arrière-plan, d'essayer de l'apaiser à travers cette notion de MDR. Est-ce que c'est des choses que vous pouvez conseiller ou pas, ou vous trouvez que c'est de la magie?
Le MDR, c'est pas de la magie. Il y a des choses qui sont de la magie, mais pas le MDR. Oui, mais bien sûr, parce que en fait, de toute façon, je suis comme toutes les personnes qui accompagnent. J'ai des limites parce que je suis pas formée à tout. Et ça, c'est de l'éthique, hein, de la déontologie, tout simplement. Il y a des situations dans lesquelles, effectivement, ça doit faire appel à de la psychothérapie, parce que c'est on rentre sur des choses qui sont très ancrées depuis l'enfance. Voilà, donc effectivement, mais c'est éthiquement ma posture de pouvoir réorienter ou conseiller d'aller voir même une sophrologue ou des gens qui vont agir plus sur le corps, etc. Bien sûr, et puis les lectures, oui, tout à fait. Mais une lecture, bon, ça peut être très utile dans certains cas, puis dans d'autres cas, c'est pas la manière dont la personne fonctionne. Il y a des gens qui lisent. On est peut-être là entre lecteurs, entre guillemets, mais il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas. Donc c'est pas là où ils vont trouver la ressource.
Quel est votre livre, d'ailleurs, peut-être, qui vous a, après le deuil, qui vous a permis de découvrir ce que vous êtes en train de faire, ou quel a été le ou les livres qui vous a permis d'avoir cette réflexion et ce changement de vie à travers le deuil de votre frère?
Alors...
Est-ce que c'est l'écriture du vôtre?
Ben, je dirais, alors c'est peut-être plus l'écriture du mien, parce ouais. que j'ai beaucoup lu petite et j'ai beaucoup moins lu en étant grande, en étant adulte. Quand j'étais en deuil, j'ai bizarrement lu beaucoup de témoignages de gens qui avaient vécu une épreuve qui n'était pas une épreuve de deuil. Peut-être que j'avais peur de me confronter au deuil, en tout cas à ces moments-là, c'était plutôt au début. Ouais, c'est plus des témoignages de gens qui sont partis à l'aventure. J'ai en tête le livre de Marine Barrenérias, j'ai pas le titre en exact, mais voilà, des gens qui vivent ou qui ont vécu une épreuve. J'ai beaucoup regardé les marins, ça c'est sûr. Dans leur expérience de la résilience, c'est plus de l'observation que de la lecture de livres qui m'a soutenue. Mais je sais très bien que bon, un certain nombre de personnes sont soutenues dans leur deuil par des livres théoriques. Beaucoup citent le livre notamment de Christophe Fauré, Vivre son deuil au jour le jour, que j'ai lu après, mais pas à ces moments-là. En fait, j'ai écrit mon livre vraiment avant de rentrer dans toute lecture théorique du sujet. J'ai tout découvert après.
On rappelle d'ailleurs, Amélie Roulier, on est d'un jour un livre, un auteur. Si on a des auditrices et des auditeurs qui prennent cette émission donc en cours d'émission, Il y a deux émissions effectivement qui ont été faites avec vous, et on vous a invité, donc Amélie Roulier, pour Navigation de nuit, qui est un témoignage donc chez Pierre Tecky éditeur. On rappelle que Pierre Tecky éditeur, hein, c'est un éditeur catholique qu'on a sollicité effectivement. On verra si on aura la possibilité de l'interroger un peu pour connaître la politique éditoriale de cet éditeur donc dans les années à venir. Et donc le bandeau que vous avez, c'est un chemin de consolation face au deuil d'un frère, hein, c'est le livre effectivement, donc le témoignage effectivement que vous avez écrit sur le deuil. Et puis on rappelle quand même, hein, cette expérience forte, hein, ça vous a amené donc à monter Amélie Roulier, donc accompagnement du deuil, hein, qui est une structure aujourd'hui donc que vous dirigez, et puis ben, comme le dit très bien le nom, hein, qui fait de l'accompagnement au deuil, à la fois sur de l'accompagnement individuel et de l'accompagnement collectif. Hein, c'était tout à l'heure la question que vous posez, Diego Arrabal. Voilà, donc il y a un site internet, hein, si on tape Amélie Roulier accompagnement du deuil, on tombe sur votre site avec l'ensemble effectivement des prestations que vous êtes amené à faire. Moi j'invite, hein, les auditeurs, les auditrices, puisque on a fait ici sur présence, hein, pour préparer cette émission, enfin ces deux émissions avec vous.
Et d'ailleurs ça peut se faire en visio pour les gens qui puisque nous on nous écoute là, mais est-ce que vous pouvez faire un accompagnement en visio?
Oui. Moi je fais partie de la génération qui ça pose pas de problème.
D'accord.
Voilà, c'est vrai qu'avec la Covid, c'est la Covid aussi qui a fait ça. Il y a eu beaucoup de... Avant la Covid, ouais, ça n'existait pas, et ça existait à partir de la Covid, avec notamment des psychologues qui ont fait cela, oui, tout à fait.
Alors après, je le fais, dans certains cas, certaines personnes ne veulent pas, donc j'ai pas de soucis, mais effectivement, c'est possible.
Oui, parce que nos auditeurs qui sont dans le sud-ouest n'auront pas forcément la possibilité de se déplacer, peut-être une fois, mais pas régulièrement. Donc, c'est intéressant d'avoir cette.
Parce
cette
qu'on précise qu'elle est sur Paris. On précise qu'elle est sur Paris. Ah, oui. Donc,
Alors, non, pas du tout. Je suis à Rennes.
À Rennes. Oula.
C'est encore pire. C'est la diagonale par rapport à Paris.
Mais pour la petite histoire.
On reste à Montparnasse, hein, quand même, hein, depuis Tarbert.
Pour la petite histoire, j'ai quand même une grande partie de ma famille, mes grands-parents notamment, qui ont vécu toute leur vie à côté de Naï, donc vous devez connaître.
Ah, voilà, là ça nous rapproche.
On est chez nous.
Voilà. Mon cœur est un petit peu...
Ça nous rapproche. En tous les cas, Amélie Roulier, on rappelle, hein, le titre de votre ouvrage, Navigation de nuit, donc un très beau témoignage donc paru chez Pierre Tecky éditeur, hein, donc un chemin de consolation face au deuil d'un frère. Je rappelle également, on l'a rappelé tout au long de cette émission, hein, que ben ça a amené chez vous aussi donc à avoir, on va le dire, vous parlez tout à l'heure de posture, une nouvelle posture professionnelle, donc avec votre structure Amélie Roulier accompagnement du deuil. Vous tapez auditeurs et auditrices, Amélie Roulier, accompagnement du deuil, vous tomberez sur le site internet d'Amélie Roulier. Vous verrez effectivement toutes les prestations qu'elle a amenées à faire. Et puis, on va terminer, hein, sur le fait que ben, vous allez faire bientôt une rencontre sur le deuil rue Victor Hugo. Et puis, je rappelle juste ce que disait Victor Hugo, hein, dans ce super poème sur le deuil. Hein, « Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. » Vois-tu, je sais que tu m'attends. Et il l'a écrit pour sa fille Léopoldine.
Et voilà. Et quand on parle de Blanchy, mon pauvre cher Philippe, il suffit de voir vos tempes pour expliquer.
Voilà. Et j'invite les auditeurs à écouter la chanson des Frangines,
oui,
qui ont repris justement. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, Amélie Roulier. Si vous ne l'avez pas écouté, vous tapez Les Frangines, donc Demain dès l'aube. Elles ont mis en musique le poème de Victor Hugo. Vous verrez, c'est superbe. Il y a une superbe vidéo, regardez-la, et notamment à la fin de la vidéo, elles arrivent sur la tombe de Léopoldine Hugo et de son mari, donc Julien Drouet. Voilà, si je me souviens bien, voilà, c'est Léopoldine Drouet et Julien Drouet, voilà, qui est une tombe qui n'est pas très loin, effectivement, de l'endroit où ils se sont noyés. Donc au 19e siècle. Voilà. Merci encore de nous avoir accompagnés, Amélie Roulier, Navigation de nuit chez Pierre Tecky éditeur. Et si vous sortez d'autres ouvrages, ben écoutez, vous savez où on est, surtout vous nous tenez au courant. Même si on est loin.
On est à côté de Nike quand même.
Je viendrai avec plaisir.
Merci beaucoup.
Merci. Bonne journée à tous.
Merci. Bonne journée.
Au revoir.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Noni, Philippe Subercase.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous.
Eh bien non.
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
Radio Présence à Pau, 96. Présence dans le Lauragais, 97.9.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
La résurrection du Christ, un antidote à la tristesse. Audience générale devant 50 000 fidèles rassemblés, place Saint-Denis.